Chapitre 15. La plus belle de l'école. Une excellente manière de te défendre d'eux, c'est d'éviter de leur ressembler. Marc Aurèle. 1. Il était 2h du matin lorsque je sortis des urgences du CHU de La Fontaine. À quoi ressemble l'odeur de la mort ? Pour moi, c'est celle des relents de médoc, de désinfectants et de produits d'entretien qui planent dans les couloirs des hôpitaux. Maxime avait fait une chute de plus de 8 mètres avant d'atterrir sur le chemin goudronné. Des branchages, en contrebas du talus, avaient amorti sa dégringolade, mais pas suffisamment pour éviter de multiples fractures aux vertèbres, au bassin, aux jambes et aux côtes. Embarquant Olivier dans ma voiture, j'avais suivi l'ambulance jusqu'à l'hôpital et j'avais brièvement aperçu mon ami à son arrivée. Le corps plein d'ecchymoses, immobilisé par une coque rigide et une minerve. Son visage pâle et éteint, disparaissant sous les tubes des perfusions, m'avait douloureusement rappelé que j'avais été impuissant à le protéger. Les médecins à qui Olivier avait pu parler nous avaient tenu un discours grave. Maxime était dans le coma. Sa tension était très basse. Et malgré l'injection de noradrénaline, elle n'avait que peu remonté. Il souffrait d'un traumatisme crânien doublé d'une contusion, voire d'un hématome cérébral. Nous étions restés dans une salle d'attente, mais le personnel hospitalier nous avait fait entendre que notre présence ne servait à rien. Le pronostic était très réservé, même si un scanner du corps entier allait permettre de faire un bilan plus exhaustif des lésions. Les prochaines 72 heures seraient primordiales, pour déterminer la suite des événements. Dans leur non-dit, j'avais bien compris que la vie de Maxime ne tenait qu'à un fil. Olivier refusa de quitter les lieux, mais insista pour que j'aille me reposer.
« T'as vraiment une sale tête. Et puis je préfère attendre seul, tu sais. »
J'acceptai, au fond peu désireux d'être là quand la police viendrait recueillir les témoignages, et traversai le parking de l'hôpital sous la pluie battante. En quelques heures, le temps avait radicalement changé. Le vent était tombé pour laisser place à un ciel bas, d'un gris cotonneux, ponctué d'éclairs et de roulements de tonnerre. Je trouvai refuge dans la Mercedes de ma mère et consultai mon portable. Pas de nouvelles de Fanny ni de mon père. J'essayai de les appeler, mais aucun ne me répondit. Ça ressemblait bien à Richard. Il avait dû retrouver sa femme et à présent qu'il était rassuré, les autres pouvaient aller au diable. Je mis le contact, mais je restai sur le parking, moteur allumé. J'avais froid. Mes yeux se fermaient. J'avais la gorge sèche, l'esprit encore embrumé par l'alcool. J'avais rarement été aussi épuisé. Je n'avais pas dormi dans l'avion la nuit dernière, et pas beaucoup non plus celle d'avant. Je payais cash le décalage horaire, l'abus de vodka et le stress. Je ne maîtrisais plus mes pensées qui partaient dans tous les sens. Cerné par le martèlement de la pluie, je m'écroulais sur le volant.
« Il faut qu'on se parle, Thomas. J'ai découvert quelque chose de très grave qui... »
Les dernières paroles de Maxime bourdonnaient à mes oreilles.
Que voulait-il me dire de si urgent? Qu'avait-il découvert de si grave?
L'avenir était sombre. Je n'étais pas parvenu au bout de mon enquête, mais je commençais à admettre que je ne retrouverais plus Vinca. Alexis, Vinca, Francis, Maxime. La liste des victimes de cette affaire ne cessait de s'allonger. C'était à moi d'y mettre fin. Mais comment ? L'odeur qui régnait dans l'habitacle me replongea dans mon enfance. C'était le parfum que portait autrefois ma mère. Jiki de Guerlain, une odeur mystérieuse et entêtante qui mélangeait la fraîcheur des effluves de Provence, la lavande, les agrumes, le romarin et la profondeur plus persistante du cuir et de la civette. Je m'accrochai un moment aux notes du parfum. Tout me ramenait toujours à ma mère. J'allumai le plafonnier. Une question triviale. Combien coûtait une bagnole comme ça ? Peut-être 150 000 euros. Où ma mère avait-elle trouvé l'argent pour s'offrir une telle voiture? Mes parents avaient une bonne retraite et une belle maison qu'ils avaient achetée à la fin des années 1970, lorsque l'immobilier sur la Côte d'Azur était encore accessible aux classes moyennes. Mais cette voiture, ça ne lui ressemblait guère. Soudain, une illumination. Annabelle ne m'avait pas laissé son roadster par hasard. Son acte était prémédité. Je revoyais la scène de cet après-midi. Annabelle m'avait mis devant le fait accompli. Elle ne m'avait pas laissé d'autre choix que d'emprunter sa propre voiture. Mais pourquoi? J'examinai le trousseau de clés. En plus de celle de la voiture, je reconnus celle de la maison, celle plus longue de la boîte aux lettres, ainsi qu'une autre clé, assez imposante, gainée de caoutchouc noir. Les trois sésames pendaient au bout d'un porte-clés luxueux, une forme ovale, en cuir grainé, frappé de deux initiales chromées. Un A entrelacé avec un P. Si le A était celui d'Annabelle, à qui renvoyait le P? J'allumai le GPS et jetai un coup d'œil aux adresses préenregistrées, sans y trouver rien de suspect. J'appuyai sur le premier item, maison. Et alors que l'hôpital était situé à moins de 2 kilomètres du quartier de la Constance, le GPS calcula une distance de 20 kilomètres avec un itinéraire compliqué qui me faisait passer par le bord de mer pour m'entraîner en direction de Nice. Troublé, je débloquai le frein à main et sortis du parking en me demandant quel était cet endroit inconnu que ma mère considérait comme sa maison. 2. En pleine nuit, et malgré la pluie, la circulation était d'une fluidité absolue. En moins de 20 minutes, guidé par les instructions du GPS, j'arrivai à destination. Une résidence sécurisée à mi-chemin entre Cagnes-sur-Mer et Saint-Paul-de-Vence. Aurélia Park, là où Francis avait sa garçonnière. Là où il avait été assassiné. Je me rangeai dans un renfoncement, à une trentaine de mètres de l'imposante grille en fer forgé qui protégeait l'entrée. Après la vague de cambriolage de l'an dernier, la sécurité avait dû être drastiquement renforcée. Un veilleur aux allures de planton était en faction devant le poste de gardiennage. Une Maserati me dépassa et s'avança devant le portail. Il y avait 2 entrées possibles. À gauche, les visiteurs devaient se signaler au gardien, tandis que les résidents pouvaient emprunter la voie de droite. Un capteur scannait leur plaque d'immatriculation et ouvrait la grille automatiquement. Sans couper le moteur, je pris le temps de réfléchir. Les initiales A et P renvoyaient à Aurélia Park, ce domaine dont Francis avait été l'un des promoteurs. D'un coup, un élément me revint en mémoire. Aurélia était le 2e prénom de ma mère. Un prénom qu'elle aurait d'ailleurs préféré à Annabelle. Une autre certitude me traversa. C'était Francis qui avait offert le roadster à ma mère. Ma mère et Francis étaient-ils amants? Jamais cette hypothèse ne m'avait effleuré, mais à présent, elle ne me paraissait plus du tout farfelue. Je mis mon clignotant et m'engageai dans la file réservée aux résidents. Il pleuvait tellement qu'il était à peu près certain que le gardien ne pouvait pas distinguer mon visage. Le capteur scanna la plaque d'immatriculation de la Mercedes et le portail s'ouvrit. Si sa plaque était enregistrée, cela signifiait en tout cas que ma mère était une familière des lieux. En roulant au pas, je suivis la petite route goudronnée qui s'enfonçait dans une forêt de pins et d'oliviers. Construit à la fin des années 1980, Aurélia Park était devenu célèbre parce que ses promoteurs avaient reconstitué un gigantesque parc méditerranéen, complanté d'essences rares et exotiques. Leur prouesse, qui avait fait couler beaucoup d'encre à l'époque, tenait aussi à la création d'une rivière artificielle qui traversait le domaine. Le parc ne comptait qu'une trentaine de maisons, très éloignées les unes des autres. Je me souvenais d'avoir lu dans l'article de l'Obs que la maison de Francis portait le numéro 27. Elle se situait au plus haut du domaine, au milieu d'une végétation dense. À travers la nuit, je distinguais l'ombre des palmiers et des grands magnolias. Je me garai devant le portail en fer forgé qui dominait d'épaisses haies de cyprès. En approchant des battants, j'entendis un déclic et le portail s'ouvrit devant moi. je compris que la clé que j'avais en ma possession était en fait un passe-partout intelligent qui permettait un accès électronique à la maison. Alors que je m'engageais sur le dallage en pierre, je fus surpris par le bruit de l'eau. Ce n'était pas un ruissellement lointain, c'était comme si la rivière coulait à mes pieds. J'actionnai l'interrupteur extérieur. Le jardin et les différentes terrasses s'éclairèrent en même temps. C'est en faisant le tour de la demeure que je compris. Comme la maison sur la cascade, le chef-d'œuvre de l'architecte Frank Lloyd Wright, la maison de Francis était construite directement sur le cours d'eau. C'était une bâtisse moderne, qui n'avait rien de provençal ni de méditerranéen, mais rappelait plutôt certaines architectures américaines. Haute de 2 étages agencés en porte-à-faux, elle mélangeait les matériaux, verre, pierre claire, béton armé, et s'intégrait à la perfection dans le site végétal et le plateau rocheux sur lequel on l'avait bâti. La serrure numérique se débloqua dès que j'approchais de la porte. Je redoutais qu'une alarme ne se mette en marche. Il y avait bien un boîtier vissé au mur, mais rien ne se déclencha pour autant. Là aussi, un unique bouton poussoir permettait d'allumer toutes les lumières. Je l'enclenchai et découvris un intérieur aussi élégant que spectaculaire. Le rez-de-chaussée accueillait un salon, une salle à manger et une cuisine ouverte. Comme dans l'architecture japonaise, l'espace était décloisonné, les différents lieux de vie n'étant séparés que par des panneaux ouverts de bois clair qui laissaient passer la lumière. Je fis quelques pas à l'intérieur du loft et parcourus la pièce du regard. Je n'avais pas imaginé la garçonnière de Francis comme ça. Tout était raffiné et chaleureux. La grande cheminée en pierre blanche, les poutres en chêne blond, les meubles en noyer aux formes arrondies. Sur le comptoir du bar à cocktail, une bouteille de bière à demi entamée indiquait que quelqu'un était passé récemment. À côté de la Corona, un paquet de cigarettes et un briquet dont la coque laquée était ornée d'une estampe japonaise. Le Zippo de Maxime. Bien sûr, c'est lui qui était venu ici après notre conversation chez ma mère. Et ce qu'il avait découvert l'avait suffisamment bouleversé pour qu'il parte précipitamment en oubliant ses clopes et son briquet. En me rapprochant des grandes baies à galandage, je pris conscience que c'était à cet endroit précis que Francis avait été assassiné. Il avait dû être torturé près de la cheminée, peut-être laissé pour mort. Puis il s'était traîné sur ce parquet patiné jusqu'au large mur de verre qui surplombait la rivière. Là, il avait réussi à téléphoner à ma mère. Mais je ne savais même pas si elle avait reçu son appel.